question il y a maintenant 5 ou 6 ans par les mêmes auteurs. Il y a cette fameuse mesure des planètes que nous consommons à mesure que notre civilisation progresse et qui, chaque année, exige de nous que nous consommions davantage de ressources, que nous écoulions davantage des déchets de pollution que l'écosystème doit absorber. La planète ne suffit plus à soutenir nos modes de vie depuis le début des années 1970. C'est là que le glissement s'est opéré. C'est depuis 1970 que nous consommons chaque année plus d'une planète pour répondre à nos besoins. Nous sommes aujourd'hui, à l'échelle mondiale, à peu près à 1,6 planète. Alors, face à ces crises qui se préparent, il y a 3 attitudes qu'on peut adopter. Il y a d'abord une attitude que je vois couramment, qui est celle du déni. Et cette attitude du déni, elle est confortable et elle est psychologiquement tout à fait compréhensible. Les psychologues nous enseignent que les informations qui nous dérangent, qui nous obligent à interroger nos modes d'existence, qui mettent en cause, au fond, la manière dont nous vivons, consommons, produisons, sont des informations qu'on comprend, mais qu'on n'absorbe pas. Une sorte de barrière psychologique fait obstacle à ce que nous puissions les prendre en compte, ces informations, dans notre action. Ce n'est pas alors plus de rapports qu'il faut, plus de statistiques qu'il faut, plus de graphiques. C'est une remise en cause de la manière dont les décisions sont prises dans la société. Alors, il y a une deuxième manière de réagir face à ces informations et face à l'annonce de ces crises, c'est l'attitude responsable de celles et ceux qui vont voter et qui vont consommer de manière plus responsable. C'est important de faire le bon choix comme citoyen électeur et de faire le bon choix comme consommateur, acteur, comme consommateur. Mais cette approche, malgré tout, souffre de 4 infirmités. D'abord, c'est une approche qui est au risque de la lenteur. Tant est important le moment qui sépare les signaux que nous envoyons et la réaction que nous pouvons attendre du monde politique ou économique. Deuxièmement, cette réaction est au risque de l'inefficacité. Les messages que nous envoyons sont des messages mixtes. Les consommateurs font des choix aussi en fonction de l'économie low cost qui leur offre une pharmacopée de biens de consommation toujours plus désirables, et les électeurs n'ont pas toujours la possibilité de sanctionner les mandataires à temps. Il y a un troisième risque, c'est le risque de l'échec. Car naturellement, ils font face, ces électeurs, ces consommateurs, à toute une série de blocages, aux lobbies, aux routines, aux coûts engloutis qu'il faut rentabiliser, et le système est extrêmement inerte, il n'est pas certain que l'électeur, le consommateur, c'est-à-dire deux fois rien, parviennent à changer les choses. Et puis, il y a un quatrième risque, peut-être le plus perturbant, c'est qu'on se prive du potentiel de l'intelligence collective en ne pariant que sur le droit de vote individuel et sur le geste de consommation de l'individu. Rob Hopkins nous invite à une troisième attitude qui consiste à être acteur citoyen, qui consiste à être celui qui n'attend plus qu'on vienne à son secours, qu'on pense pour lui, mais qui choisit de se déplacer, de s'alimenter, de consommer, de produire en fonction d'un idéal d'une société plus sobre et plus respectueuse des écosystèmes. C'est ce que propose Rob Hopkins, le mouvement de la transition, ne pas attendre, agir chacun à son niveau, dans son environnement immédiat, avec, je crois, quelques bénéfices qui sont extrêmement importants et dont on va parler ce soir. Le premier bénéfice de ces différentes initiatives, c'est celui que nous enseignent encore eux les psychologues. Vous avez ici Edward Deakey et Richard Ryan, pardonnez-moi, qui sont ici à gauche, et qui ont fait des études sur ce qui motive les gens à agir. Et que constatent-ils dans ce qu'ils appellent la théorie de l'autodétermination? Eh bien, c'est que lorsqu'on impose des contraintes aux gens, lorsqu'on leur impose des taxes pour dissuader les comportements qui ne sont pas appropriés, ou qu'on subsidie des comportements, l'on va avec réticence avancer dans la direction qu'on propose à travers ces taxes et subsides ou ces réglementations. Ce qui marche beaucoup mieux, ce qui est plus durable, ce sont les gestes qui sont posés parce qu'ils correspondent, ces gestes, à des convictions intimes que nous avons, des valeurs auxquelles nous adhérons, bref, des motivations internes plutôt que des incitants externes ou extrinsèques. Premier avantage, donc, de ces initiatives, c'est qu'elles invitent les gens à être motivés par le souci de changer le monde dans l'environnement immédiat de chacun. Elles parient sur notre capacité à être autre chose que ces consommateurs passifs et finalement assez dociles que le marketing cherche à fabriquer en nous. Deuxième avantage, et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer une photo de la philosophe Hannah Arendt, c'est qu'au fond, cette sociodiversité, cette diversité d'innovation sociale nous oblige à nous sentir responsables du système que nous habitons. Hannah Arendt, rappelez-vous, avait voyagé à Jérusalem pour documenter le procès Eichmann et elle avait constaté que ce Adolf Eichmann était banal. Il n'était qu'un rouage d'un grand système. Il n'avait pas de raison de se sentir responsable des conséquences de la machine dont il n'était qu'une toute petite partie. Eh bien, dans notre vie sociale, nous avons souvent ce sentiment d'impuissance, nous sommes déresponsabilisés, et par conséquent, nous n'avons pas l'impression qu'il nous appartient de changer quoi que ce soit. La sociodiversité, c'est-à-dire l'obligation pour nous de choisir comment produire, consommer, se déplacer, comment interagir, à présent que nous avons le choix, nous oblige à accepter les conséquences de ces choix qui sont devenus des choix responsables. Et puis, troisième bénéfice de ces innovations, c'est qu'elles nous permettent de rétablir les liens sociaux. Je suis frappé par cette étude qui est notamment utilisée par Richard Wilkinson et Kate Pickett, qui ont étudié les conséquences des sociétés très inégalitaires. Et ils montrent notamment cette étude qui, à ma surprise, je dois dire, illustre le fait que l'espérance de vie est affectée par toute une série de facteurs nocifs, par exemple la consommation de tabac, la surconsommation d'alcool, l'obésité, mais le facteur le plus déterminant, c'est l'absence de liens sociaux, l'absence d'intégration sociale. Les personnes qui sont isolées, et aujourd'hui l'exclusion monétaire est un vrai problème, mais l'exclusion sociale, la solitude des uns et des autres, est un problème qui est devenu un véritable problème de santé publique. Alors, ces initiatives appellent de la part du politique plusieurs changements. D'abord, il s'agit non seulement de réglementer et de redistribuer par des taxes et des subsides, il s'agit aussi de créer des espaces d'inventivité, de libérer le potentiel de l'intelligence. Deuxièmement, il s'agit non seulement de penser pour d'autres, ce qui serait bon pour eux, pour la population, mais de se mettre en position d'apprendre, misant sur cette intelligence collective, ayant avec la modestie de comprendre des innovations sociales. Et puis troisièmement, il s'agit non seulement pour les politiques d'aller vers une société plus durable, plus résiliente, en matière de transport, en matière d'alimentation, en matière de traitement des déchets, en matière de logement, mais de prendre tous ces secteurs ensemble dans des approches transversales, transsectorielles, qui amènent vers plus de résilience, plus de durabilité, comme on le fait dans des tentatives d'écologie industrielle ou d'économie circulaire. Rob Hopkins est un sage, de manière telle que pour le présenter, lui qui est le fondateur du mouvement de la transition, qu'il a innové à Totnes, dans le sud de l'Angleterre, il y a maintenant 8 ans, lui qui est à la base de ce mouvement de la transition, qui a essaimé dans 50 pays aujourd'hui avec plus de 2000 initiatives de transition, je voudrais vous raconter une très brève histoire. Si on voulait piéger Rob Hopkins, lui dont la sagesse est tellement louée, il suffirait d'envoyer là un enfant avec un oiseau entre les mains et l'enfant poserait cette question. Est-ce que l'oiseau est mort ou vivant? Et naturellement, si Rob répond que l'oiseau est mort, il suffira de le libérer, il aura été vivant. Et si Rob répond que l'oiseau est vivant, il suffira de l'étouffer et Rob aura effectivement montré qu'il n'était pas infaillible. La réponse de Rob, je le suppose, si cet enfant venait à lui, ce serait la réponse, mon enfant est entre tes mains. Je vous remercie.